Ah, nous allons pouvoir commencer. Bon, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, revenir sur le problème de Gethsémani, la prière d'agonie et le refus de la coupe, ce serait reprendre en détail certaines des questions laissées pendantes en conclusion du dernier cours de l'année 2015, dont la 16e, la notion de sujet-agent, a-t-elle reçu une impulsion décisive des débats christologiques sur le mono-énergisme et le monothélisme entre le concile de Chalcédoine et celui de Constantinople III. À cette question, rappelais-je la semaine passée, j'avais donné une réponse provisoire et positive, annonçant la nécessité d'une enquête allant de Sergius Ier de Constantinople et de ses sources jusqu'à Maxime le Confesseur. J'entends vous montrer dans les prochaines séances que le conflit des vouloirs, autrement dit le conflit entre vouloir, ne pas vouloir, et nouloir ou noloir, c'est-à-dire vouloir que ne pas, chez le Christ, abordé l'an passé avec le Pséphos de Sergius de Constantinople, se prolonge chez Maxime le Confesseur dans la représentation d'un conflit entre ce qu'il appelle la volonté naturelle et le vouloir gnomique, d'une part, logos et tropos, d'autre part, deux notions qui mobilisent les notions de nature et d'hypostase, le tout étant repris au Moyen-Âge sous diverses formes, la plus éloignée en apparence, mais la plus stimulante, étant la thèse, disons, illustrée, notamment par Thomas d'Aquin, de l'impossibilité pour l'homme de vouloir son propre mal. Cette impossibilité, Maxime le Confesseur donne à l'entendre, l'explicite, non pas au niveau de ce qu'il appelle la volonté naturelle, non, mais au niveau de précisément ce qu'il appelle le vouloir gnomique. Notion et thèse qui nous permettent, pour reprendre une expression de Benoît XVI, de comprendre en quoi il est possible de dire non à Dieu et donc de pécher. Je reviendrai sur l'expression de Benoît XVI, n'est-ce pas, qui n'est précisément pas une expression de Maxime le Confesseur, mais par là nous pourrons mesurer l'écart qui sépare une thèse ancienne d'une reformulation moderne de la même thèse. En tout cas, sur ce point, donc, dire non à Dieu, la thèse essentielle de Maxime, l'explication qu'il donne de la possibilité d'une telle attitude, tient dans la description succincte proposée par Corey Barnes dans son texte sur les deux volontés du Christ, Christ's two wills. Il appartient au logos d'une nature intellectuelle d'être doué de posséder une volonté, téléma. Cette volonté est naturellement en accord avec Dieu. Rien de naturel n'est opposé à Dieu. L'opposition d'une volonté humaine pécheresse à Dieu ne repose pas sur sa nature, mais sur son hypostatic mode, son mode hypostatique. Le mal n'est pas naturel en l'homme. Ce n'est pas un trait, ce n'est pas une caractéristique d'essence de l'homme, ce n'est pas un élément de la nature humaine. Cette nature que, rappelons-le, le Christ assume dans l'incarnation. Le mal, donc, n'est pas naturel en l'homme. Qu'est-ce dans ces conditions ? Eh bien, précisément, c'est un mode hypostatique, un mode de son hypostase individuelle. Il va nous falloir, disais-je la semaine dernière, revoir, revisiter le problème de la liberté humaine et du libre choix, envisagé l'année dernière. Il va nous falloir, disais-je donc, le revisiter ce problème sous cet angle, l'angle hypostatique. Autrement dit, dans un vocabulaire plus convivial, subjectif, sous cet angle donc hypostatique du conflit des volontés, enrichi par la distinction maximienne entre nature et trope, physis et tropos. Je rappelais la semaine dernière à ce propos, dans une conclusion un peu précipitée, que chez Augustin, le conflit des volontés, plus précisément le conflit du vouloir et du nouloir ou noloir, que j'avais présenté l'an passé comme structurel et permanent, autrement dit comme structurant, je rappelais à ce propos donc que chez Augustin, ce conflit des volontés était au cœur de la réflexion théologique sur la liberté. C'est donc dans cette perspective latine, augustinienne, que nous allons ouvrir et lire des Grecs. Autrement dit, Maxime, mais aussi, et une fois de plus, nos deux chrétiens syriens, Némésius d'Émèse et Jean de Damas. Redonner aux catégories médiévales l'incertitude d'un futur encore ouvert. An uncertain open future. On n'a peut-être pas bien saisi la portée et les enjeux de cette remarque faite la semaine dernière, à cause de l'aspect peut-être un peu... Alors quand je dis un peu, c'est évidemment au sens de Bernard-Henri Lévy, c'est-à-dire extrêmement, extrêmement états-unien de la formule « décoloniser le passé ». Qui vous a peut-être choqué, je ne sais pas. En fait, pour ce qui nous occupe ici, autrement dit, le travail d'archéologie philosophique, cette idée reste déjà présente, n'est-ce pas, dans la littérature philosophique et historique française. Elle est déjà présente depuis longtemps. Ce qu'il s'agit de faire, donc, que dit d'une certaine façon décoloniser le passé. Ce qu'il s'agit de faire, c'est pour nous de nous arracher à la téléologie historique. S'arracher à la téléologie historique. Cela veut dire, premièrement, tenter d'échapper au mirage du présent dans le passé. Ce mouvement rétrograde du vrai, dénoncé en ces termes, donc il y a un certain temps, je ne vous mens pas, il y a même longtemps d'une certaine façon, je ne peux pas dire dans cet amphithéâtre, mais dans ces lieux mêmes, probablement, par Henri Bergson. Dénoncé en ces termes, dans ce beau texte repris dans La Pensée et le Mouvant, notre appréciation des hommes et des événements est tout entière imprégnée de la croyance à la valeur rétrospective du jugement vrai. Un mouvement rétrograde qui exécuterait automatiquement dans le temps la vérité une fois posée. Par le seul fait de s'accomplir, la réalité projette derrière elle son ombre dans le passé indéfiniment lointain. Elle paraît ainsi avoir préexisté sous forme de possible à sa propre réalisation. Très important théorème que celui du mouvement rétrograde du vrai, dont Bergson donne une belle illustration, d'autant plus belle qu'elle est compréhensible, n'est-ce pas, dans un exemple qui est certainement compréhensible parce qu'il est littéraire plus que philosophique, autrement dit, celui-ci. S'il n'y avait pas eu un Rousseau, un Chateaubriand, un Vigny, un Hugo, non seulement on n'aurait jamais aperçu, mais encore il n'y aurait réellement pas eu de romantisme chez les classiques d'autrefois, car ce romantisme des classiques ne se réalise que par le découpage de leurs œuvres, dans leurs œuvres d'un certain aspect, et la découpure, avec sa forme particulière, n'existait pas plus dans la littérature classique avant l'apparition du romantisme que n'existe dans Le Nuage qui passe le dessin amusant que l'artiste y apercevra en organisant la masse amorphe au gré de sa fantaisie. Autrement dit, sans romantisme, pour faire simple, n'est-ce pas, il n'y aurait jamais eu de pré-romantisme, ni évidemment de romantisme des classiques. Sans Rousseau, pas de romantisme des classiques. Donc, échapper au mirage du présent dans le passé, c'est donc, pour résumer, tenter d'échapper à l'illusion que dans un texte célèbre, Foucault révolutionne l'histoire, Paul Venn appelait l'enrichissement du passé et de ses œuvres en fonction des interprétations que l'avenir en donnera à travers les siècles. S'arracher à la téléologie historique, cela veut dire aussi, c'est mon deuxième point, ça veut dire aussi deuxièmement, s'arracher au scénario historiographique dominant. Les questions christologiques sont vues, quand elles sont vues, à travers ce qui a conquis une place hégémonique, si vous préférez, le rôle herméneutique principal dans le paysage, non seulement français, n'est-ce pas, mais mondial. La distinction réelle entre l'essence et l'existence, telles que l'ont élaboré Thomas d'Aquin et les thomismes successifs, à la fin, pour les thomismes successifs, tout particulièrement, du XIXe et au début du XXe siècle, où, en ce moment précis, la distinction entre essence et existence est promue par certains au rang, ni plus ni moins, que de, je cite, « fondement de la philosophie chrétienne ». Téléologie, télos. La distinction de l'essence et de l'existence est devenue le télos obligé dans l'intrigue matinée d'hagiographie construite autour du magistère théorique de Thomas d'Aquin. C'est chez le plus acharné adversaire moderne de la scolastique, en même temps, au passage, qu'un enfin, je le signale, mais, en tant qu'ancien élève de Paul Vigneault, je ne voudrais pas que vous imaginiez des choses, n'est-ce pas ? C'est donc chez le plus acharné adversaire moderne de la scolastique et aussi un personnage politiquement assez discutable, à savoir Louis Rougier, qu'est formulé le plus clairement, politiquement discutable et avoir des idées claires, n'est-ce pas, qui est formulé le plus clairement et le plus brutalement ce scénario téléologique. Dès 1920, dans Les paralogismes du rationalisme, essai sur la théorie de la connaissance, paru donc à Paris chez Félix Alcan, scénario repris dans La scolastique et le thomisme, Paris Gauthier-Villard, 1925, puis dans sa version abrégée, que vous pouvez encore lire aujourd'hui, et très 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 abrégée, n'est-ce pas ? La scolastique et le thomisme est une sorte de pavé, tandis que la version abrégée est un opuscule. La version abrégée qui s'intitule « Histoire d'une faillite philosophique, la scolastique », livre, ouvrage qui avait été commandé par Jean-François Revel à Rougier pour la collection « Liberté » de Jean-Jacques Pauverne, et qui est donc paru des années et des années, la version abrégée est donc parue des années après 1925, puisqu'elle est parue en 1966. Dans cette collection qui avait été inaugurée par le texte de Revel, célèbre, intitulé « Pourquoi des philosophes ?» point d'interrogation. Je vous laisse découvrir la réponse. C'est un savoureux pamphlet avec lequel on n'est pas obligé d'être en accord, mais dont on doit admirer l'élégance de plume. Donc, en tout cas, la téléologie thomasienne est mise en évidence à travers donc cette espèce de magistère théorique de la distinction entre essence et existence par Louis Rougier dans les termes suivants. C'est grâce, dit-il en substance, à la distinction réelle de l'essence et de l'existence que la christianisation indolore d'Aristote, la conciliation voulue par le pape Urbain IV après les condamnations de l'aristotélisme en 1210 et de leurs diverses répliques, notamment d'Avicenne et d'Alexandre d'Aphrodise. Donc, la conciliation donc voulue par Urbain IV a été obtenue par Thomas d'Aquin. C'est grâce à cette distinction entre essence et existence. Et d'insister, le principe thomiste de la distinction entre essence et existence est le seul qui, en théologie, permette d'établir la possibilité ontologique de l'union hypostatique de deux natures en Jésus-Christ et de la présence de trois personnes en un seul Dieu. Il va de soi que pour Rougier, cette possibilité ne vaut qu'à l'intérieur du cercle enchanté et fatal de la scolastique, de cette scolastique qu'il dénonce. Cette possibilité ontologique, en fait, n'a aucune, à ses yeux, aucune base rigoureuse, puisqu'elle repose, dit-il, et il le dit dès les paralogismes du rationalisme, tout entière sur une transformation indue de la distinction logique de l'essence et de l'existence posée par Aristote en une distinction ontologique. Tout commence très mal dans l'histoire de la philosophie. Alors, je ne veux pas vous laisser dans un état de perplexité excessif concernant la question politique, n'est-ce pas ? Ce que je viens de dire ici, à savoir, par exemple, qu'il y ait une transformation indue d'une distinction logique en une distinction ontologique, n'est pas du tout un problème politique, n'est-ce pas ? On peut tout à fait soutenir cette thèse, et d'ailleurs beaucoup de gens l'ont soutenue, et le Rougier qui soutient cela est celui qui deviendra, au fond, le premier représentant, à sa manière, d'un courant analytique en France. Mais la question politique est celle de la Seconde Guerre mondiale, n'est-ce pas ? Bon, où Rougier, disons, c'est... était au service, disons, tout est toujours très compliqué, je sais bien, mais quand même, du régime de Vichy. Donc voilà, d'où aussi l'allusion à Paul Vigneault, qui, dans le même temps, fondait avec Coiret l'école libre des hautes études à New York. Bon, c'est pas le même genre de personnage. En tout cas, peu importe pour ce qui nous occupe là, vous retenez cette vision téléologique de l'histoire de la pensée occidentale, n'est-ce pas, commandée par la distinction essence et existence, et pour ce qui nous occupe plus directement, la question christologique et la théologie trinitaire qui seraient entièrement dominées par cette distinction. Ce scénario thomasien, donc, eh bien, vous le retrouvez ailleurs que chez Rougier, évidemment, et c'est pour ça que c'est important, vous le retrouvez aussi chez Heidegger, par exemple, quand il met en place la différence entre essentia ou quid est, d'une part, et existentia, d'autre part, comme caractérisant ce qu'il appelle la thèse de l'ontologie médiévale. Toute l'ontologie médiévale est commandée par cette distinction entre essentia et existentia, et vous retrouvez chez Heidegger le scénario thomasien, n'est-ce pas, dans la mesure où à cette existentia thomaso-scolastique, Heidegger oppose ce qu'il appelle Existenz en allemand. Donc, l'existentia scolastique qu'il entend, qu'il présente, qu'il définit comme un mode d'être, une guise, un quomodo de l'étant à portée de main, l'étant à portée de main, vorhandenes, ce qu'on appelle aussi, selon les traductions, l'étant disponible, autrement dit, l'étant chosique. Heidegger oppose l'existentia de cet étant chosique à l'existenz, terme allemand, caractérisant le mode d'être de l'étant que nous sommes, nous, les hommes, et qu'il appelle, d'un autre terme très célèbre, Dasein, le Dasein. Rappelez-vous, vous voyez, le cours du 27 mars 2014, où cette distinction entre essentia, existentia et existence est posée. C'est de ce scénario-là qu'est tributaire, jusqu'à la lecture heideggerienne, de la mystique Renan et son interprétation de Meister Eckhart. Ce scénario téléologique thomasien, c'est aussi, thomasien et post-thomasien, c'est aussi de lui, donc de toujours, je vous dis, de ce primat de la distinction essentia-existentia, c'est aussi de ce scénario que dépend le théologien, grand théologien Hans Urs von Balthasar, 1905-1988, dans son grand livre de 1941 sur Maxime le Confesseur, qui s'intitule « Kosmische Liturgie, das Weltbild Maximus des Bekenners », liturgie cosmique, l'image du monde chez Maxime le Confesseur, traduit précisément en 1947, pour une fois, on n'a pas trop attendu pour traduire un ouvrage important, traduit en 1947 sous le titre « Liturgie cosmique, Maxime le Confesseur ». Maxime ne parle pas d'essentia et d'existentia. Il parle d'ousia et d'hypostasis. Le couple hypostase, hypostasis, ousia, doit être restitué à son horizon propre. Et il doit être soustrait, c'est le sens de l'expression take back que j'employais la semaine dernière en présentant les vues de la décolonisation du Moyen-Âge, n'est-ce pas ? Il doit être, ce couple, soustrait à celui que nous lui attribuons comme sens porté ou signification post-eventum, en fonction de notre connaissance de ce qui est advenu après Maxime. Pour Urs von Balthasar, Maxime vit à une époque où la distinction scolastique de l'essentia et de l'existentia n'est pas encore formulée. Et cela est décisif, quel que soit le génie de Maxime. La relation entre l'essence et l'hypostase, dit Urs von Balthasar, tient lieu chez Maxime de distinction entre l'essence et l'existence. Elle révèle. Vous avez les textes à l'écran, la non-identité de l'ordre de l'essence et de l'ordre de l'existence, même si cette non-identité n'est pas encore aperçue comme le thème d'une composition métaphysique. Maxime le Confesseur, en homme de son temps, est contraint de travailler avec un matériel philosophique qui n'est pas encore parvenu à maturité et qui est nécessairement insuffisant dans les questions les plus délicates. Si représentée soit-elle, ou est-elle été, la thèse érigeant la différence réelle entre essence et existence en fondement indépassable de la christologie, est loin cependant, à mes yeux, de capter l'essentiel en ce qui concerne l'histoire du sujet et de la subjectivité. Plus décisives sont précisément les dites questions les plus délicates. Le détail des complexes questions-réponses ou de symboles en anathème se construit patiemment, souvent douloureusement, le dogme. D'ailleurs, qui nous dit que la distinction entre existentia et existens ne peut être abordée à partir de Maxime le Confesseur? Qui nous dit cela, après tout? Comme l'écrivait Marie-Joseph Le Guillou, à propos du problème du monothélisme, ce qui est au centre de la controverse monothélite, ce n'est pas d'abord une discussion sur les natures et leurs propriétés respectives, la nature humaine du Christ, la nature divine du Christ et leurs propriétés respectives, mais bien plutôt l'interprétation d'un événement majeur de la vie du Christ, l'agonie. C'est là, dans la prière de Jésus à Gethsémani, que sa volonté humaine est considérée concrètement dans un acte libre d'une portée décisive, tellement décisive que j'y ai mis deux E, d'une portée décisive pour notre salut. Ainsi, le grand débat christologique du 7e siècle a fondamentalement pour objet la liberté humaine de Jésus manifestée dans son histoire. On l'a vu l'an dernier. On a vu rapidement l'an dernier comment, à un moment de péril extrême pour l'Empire byzantin, Sergius Ier, patriarche de Constantinople, dans un document intitulé Psephos, prolongé et repris dans un autre document, Lectesis, placardé sur les murs, sur les portes plus exactement, de Sainte-Sophie par l'empereur Héraclius Ier en 638, après la défaite des Byzantins au Yarmouk en 636 face aux armées arabes. Comment donc, dans ce moment de péril extrême, eh bien, Lectesis avait été placardé, mais aussi, et un peu auparavant, le Psephos avait été formulé par Sergius Ier, patriarche de Constantinople, pour tenter de neutraliser devant la menace tout conflit entre chrétiens et assurer l'unité de l'Empire face à la menace extérieure. Qu'avait fait Sergius dans ce Psephos? Sergius, je vous le rappelle, avait proscrit, interdit l'attribution de deux opérations au Christ, car si elle maintenait deux natures dans le Christ, elle semblait impliquer deux volontés en conflit, donc deux personnes comme dans le nestorianisme. Voilà le raisonnement. Étant entendu que poser deux opérations humaines, divines, dans le Christ conduit à poser deux volontés humaines, divines dans le Christ, et que la situation paradigmatique où l'on peut observer ces deux volontés est la prière d'agonie en Matthieu 26, 39 ou en Luc 22, 42 ou en Marc 14, 36, eh bien, on a ce que j'appelle le problème de Gethsémani qui est celui de la validité du raisonnement suivant. A1, première prémisse du raisonnement, que j'appellerai le raisonnement A, il y aura un raisonnement B. Poser deux volontés dans le Christ au moment de l'agonie revient à poser en lui un conflit de volonté. A2, deuxième prémisse, poser un conflit de volonté dans le Christ, c'est poser en lui deux voulants, ce qui est impie car impossible. A3, conclusion de cet argument A, donc il ne faut pas poser deux opérations dans le Christ et il faut s'en tenir à la thèse que nous appelons monothéliste, d'une seule et unique volonté, donc d'un seul voulant dans le Christ. Tout roule philosophiquement dans ce raisonnement sur la prémisse A1. Le monothélisme, la thèse selon laquelle il n'y a qu'une volonté dans le Christ, suppose véritablement la véracité, la validité, la vérité de la thèse A1. Poser deux volontés dans le Christ au moment de l'agonie revient à poser en lui un conflit de volonté. Si A1 est faux, il n'y a plus d'argument, car on ne peut pas passer à A2. Cet argument A a un présupposé, c'est que deux volontés dans le Christ égale conflit dans le Christ, c'est-à-dire deux volontés contraires. Deux volontés différentes égale deux volontés contraires. Voilà le présupposé. Tout roule aussi sur A2. Le monothélisme suppose aussi A2, puisque si A2 est faux, on ne passe pas à A3. Et le présupposé de A2, c'est s'il y a deux volontés, alors nécessairement il y a deux voulants. Là où il y a deux volontés, il y a deux qui veulent. Autre présentation possible du problème, ce que j'appelle l'argument B, ou le plan B, c'est mon préféré, qui a pour fonction, cet argument B, de montrer les enjeux et d'exploiter les résultats, supposant qu'il y en a un, et allant dans le bon sens, autrement dit, le sens monothéliste de A. B1, poser un conflit de volonté dans le Christ, là, vous voyez, on est dans l'exégèse. Poser un conflit de volonté dans le Christ en Matthieu 26, 39, Luc 22, 42, que je mets en gras car ce sera notre texte de référence pour des raisons qui apparaîtront. Marc 14, 36, donc les trois synoptiques, hein, c'est rejeter l'impeccabilité du Christ. B2, poser deux volontés dans le Christ, c'est poser un conflit de volonté dans le Christ. B3, donc il ne faut pas poser deux volontés dans le Christ en Matthieu 26, 39, Luc 22, 42 ou Marc 14, 36. L'argument B tient évidemment si et seulement si B2 est vrai. Poser de volonté dans le Christ, c'est poser un conflit de volonté dans le Christ. Ce qui nous ramène évidemment ipso facto à A1, puisque B2 c'est A1. Donc, il n'y a dans le Christ ni deux opérations par l'argument A, ni deux volontés par l'argument B. Comment échapper à B ? Bien, c'est assez simple. Il suffit de soutenir et de prouver qu'il n'y a pas expression d'un conflit de volonté en Luc 22, 42, Matthieu 26, 39 ou Marc 16, 14, 36. Et c'est ce que fait Sergius. Il n'y a qu'une volonté dans le Christ et il n'y a qu'un seul voulant. Un seul qui veut. J'avais pris l'an passé comme référence dans la courte présentation que j'avais faite lors du dernier cours du Psephos, j'avais pris comme texte de référence Matthieu 26, 39. Je prendrai désormais, et en tout cas aujourd'hui, plutôt Luc 22, 42, pour des raisons qui apparaîtront clairement chemin faisant. Je vous rappelle le texte de Luc 22, 42. Père, Alors, j'ai un mot à mot, n'est-ce pas ? Alors, le français n'est pas très élégant, mais il colle. Vous rappelez ce qu'on a dit la semaine dernière, la première semaine, les traductions mot à mot ou les traductions périphrastiques. Bon, là, c'est du mot à mot. Père, et ici, Boulay, tu veux, éloigne, tout au se, tout ne signifie rien, poterion, calice, de moi. Mais, pleine, toutefois, mais, le mot grec, pas. La volonté de moi, to telema mou, Allah, au contraire, plutôt, mais, to, rien, son, ginesto, de toi, soit faite. Donc, Père, si tu veux, éloigne de moi ce calice, mais que ta volonté et non pas la mienne, soit faite. Donc on a deux phrases dans cette unique prière qui semblent bien se contredire. Si l'on admet avec... Voilà le raisonnement de Sergius. Si l'on admet avec les tenants du Concile de Chalcédoine, avec ceux qu'on appelle les chalcédoniens orthodoxes, la coexistence de deux volontés dans le Christ. On est contraint de comprendre les paroles du Christ en Luc 22-42 comme la manifestation de deux volontés contradictoires, la volonté humaine et la volonté divine. J'introduis P1, n'est-ce pas, dans ce dispositif, proposition 1, et P2, proposition 2, pour distinguer les deux propositions exprimant ces volontés, propositions qui sont articulées par l'adverbe pleine. Mais, proposition 1, volonté humaine exprimant un refus, à savoir le refus de la passion, de la mort qui vient. Père, si tu voulais, traduit-on en général, si tu veux faire passer cette coupe loin de moi, pleine, meto telema mu ala to son ginesto. Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. J'ai souligné Boulay, et j'ai souligné, du moins je l'espère, eh bien je vois que non, Téléma. Bon, en tout cas, si tu voulais que ta volonté et non pas la mienne soit faite, enfin que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Matthieu 26, 39. Mon Père, ei dunaton estin, si l'est possible, si c'est possible, dunaton. C'est pas si tu veux, hein, mais si c'est possible, que cette coupe passe loin de moi, toutefois, alors, pleine, huc os ego telo al os su. Pas comme je veux, mais comme tu veux. Donc on a ici une opposition de la volonté humaine à la volonté divine, selon Sergius. Une opposition de la volonté humaine à la volonté divine, une opposition à la volonté divine, qu'est-ce sinon la définition du péché ? Comment sauver le Christ du péché ? Comment préserver l'impeccabilité du Christ ? Le Christ qui n'a pas pu pécher, puisque, rappelez-vous, on a vu ça la semaine dernière, il a assumé seulement une ressemblance de la chair du péché, Romains 8, 3, et pas le péché lui-même, selon Basile de Césarée. Comment sauvegarder l'impeccabilité du Christ face au problème de Gethsémani. La réponse du monothéliste est simple. Il n'y a qu'une volonté dans le Christ, la volonté divine, qui s'exprime dans P2, dans l'acceptation, et qui, par voie de conséquence, ne s'exprime pas dans P1, c'est-à-dire dans le refus. Il n'y a qu'une volonté dans le Christ, la volonté divine qui s'exprime dans P2. Alors, la question que vous vous posez, j'imagine, est, eh bien, qui s'exprime dans P1? Ce n'est pas la volonté humaine du Christ qui parle contre la volonté divine. C'est impossible. Mais alors, qui parle? Qui parle dans « Père, si tu veux, si tu voulais, faire passer cette coupe loin de moi, mon Père, que ce calice passe loin de moi, s'il est possible ?» Eh bien, la réponse de Sergius, qui veut éviter le conflit de volonté, hein, pour ainsi dire téléguidé, hein, la réponse de Sergius, c'est non pas la volonté humaine du Christ, mais il y a bien quelqu'un, quelque chose qui parle. Eh oui, un mouvement naturel de la chair qu'animait une âme raisonnable. Chair à laquelle le Dieu-Verbe est uni selon l'hypostase. Un mouvement naturel de la chair. Ceci doit vous rappeler quelque chose. Le mouvement naturel de la chair, c'est ce qu'on a vu l'année dernière, en considérant le désir irrépressible, ou plus exactement, dont on ne peut pas empêcher la manifestation, mais à quoi on n'est pas forcé de consentir. Eh bien, ce mouvement naturel de la chair, c'est ce que nous avions vu l'an dernier en évoquant le désir qu'éprouvait un religieux enchaîné sur un lit au milieu de femmes lascives, scénario terrifiant, posé par Abélard, n'est-ce pas ? Et c'est aussi l'équivalent des plaisances et des déplaisances, placentia et displacentia, dont nous avions trouvé les premières formulations chez les théologiens buridaniens, maîtres qui avaient été les maîtres, notamment de logique, de Martin Luther, lorsque Luther était étudiant. C'est-à-dire Usingen et Trutvetter, je pense que tout le monde a oublié les noms de ces personnages, mais enfin, en tout cas, ils avaient clairement articulé la problématique de l'acceptation et du refus au niveau éthique comme tel, en distinguant précisément entre les placentia et les displacentia d'un côté, les plaisances et les déplaisances, ce qu'on éprouve et ne peut pas ne pas éprouver, parce qu'on a une chair et que la chair est faible, n'est-ce pas ? Bon, mais, et qui ne relève en rien de ce qu'on peut, doit et seulement appeler, et seulement appeler volonté, n'est-ce pas ? Entre les plaisances, displaisances et la volonté, il y a une marge. Il y a précisément la marge de l'acceptation de ce qui vous arrive ou pas, en termes de comportement qu'on va adopter et adapter en fonction de cette situation. Donc, le niveau éthique, c'est le niveau de la volonté. Le mouvement naturel de la chair n'est pas un niveau éthique, c'est un niveau infra-éthique. C'est comme ça, on n'y peut rien. Eh bien, cela, c'est le combat de la chair contre l'esprit. C'est pas neuf. C'est la grande dynamique paulinienne telle qu'elle est décrite dans l'Épître aux Galates, ça n'est pas un conflit de volonté. C'est le désir qui parle contre la volonté. Et c'est la volonté qui a pour tâche de réfréner, dominer, domestiquer éventuellement le désir. Et au minimum de le repousser. Éloigne toi, Vade Retro. Bon, le monothélisme, disais-je l'année dernière, supprime l'agonisme, le combat dans l'agonia, dans l'agonie. Ce n'est pas un conflit entre deux voulants. Alors, rien n'est jamais complètement simple, n'est-ce pas ? Parce que, évidemment, il ne faudrait pas croire que l'épître aux Galates ne donne, n'ouvre la porte qu'à un pseudo-conflit entre une manifestation de niveau infra-éthique qui serait le désir et une tentative de régulation éthique qui serait la volonté. Ce n'est pas si simple, ça dépend des points de vue, des théories, des auteurs. L'épître aux Galates peut être aussi l'occasion d'évoquer l'existence en chacun de nous de deux hommes. Il y a deux hommes en moi, c'est d'ailleurs bien ce que dit Paul. Une dualité douloureuse, hein, celle des deux hommes en moi, que vous retrouvez, et on avait vu cela dans le célèbre et très beau cantique de Racine, hein, sur les deux hommes en moi. Alors, donc, vous voyez, c'est pas, ça, rien n'est simple. Bon, cela dit, vous m'objecterez peut-être que je pose une question. Qui parle en disant, n'est-ce pas, qui parle dans mon père, que ce calice passe loin de moi s'il est possible ? Vous m'objecterez peut-être, voilà bien une question moderne, 68arde, aussi déplacée, n'est-ce pas ? Que si l'on demandait au Christ « D'où parles-tu ?» En langage donc clairement 68 art et post-68 art. Qui parle ? Eh bien non, 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 ce n'est pas une question 68 art ni même post-68 art, c'est une question décidément et pré-68 art. C'est une question, la question « Qui parle ?» qui est médiévale et qui a une réponse médiévale. Voici, pour vous en persuader, un beau texte d'Alain Delisle qui va illustrer ce qu'on appelait l'année dernière et que j'avais déjà illustré par ce schéma, le problème du Pséphos. Le Christ, un seul et même sujet, par sa volonté humaine, résiste à sa volonté divine, qui veut et la passion salvatrice, tandis que par sa volonté humaine, qui résiste à sa volonté divine, il ne veut pas cela en même temps et simultanément, la passion, la dite passion salvatrice, autrement dit, un seul et même objet. Donc, nous venons de voir que Sergius, d'une certaine façon, résout le problème en disant qu'au niveau de la volonté humaine, n'est-ce pas ? Eh bien, on n'a précisément pas une volonté, mais un désir, hein, un mouvement de la chair. Et donc, ceci n'est pas la thèse de Sergius, c'est le problème posé par Sergius, le conflit de volonté. Est-ce que l'on peut dire qu'en chacun de nous, hein, un drame de ce genre se déroule s'il y a deux volontés ? Certainement. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas quand même par hasard le dire aussi s'il y a un conflit entre un désir et une volonté ? Après tout, pourquoi pas ? Et en tout cas, est-ce qu'on ne peut pas, à ce propos, dans « je veux et j'ai envie », hein, demander « qui parle ?» Est-ce que cette question est moderne et pas médiévale ? Ma réponse est, elle est médiévale, cette question. Et il y a une réponse médiévale. Et voici un beau texte qui l'illustre. Alain nous ab insulis, Alain de Lille. Alors, ce n'est pas une île, c'est l'île. Mais ça se dit comme ça. Alanus ab insulis, Alain de l'île. Dans ce texte merveilleux des sentences, paragraphe 23, où il commente précisément ici Matthieu 26, 39. Pater, si fieri potest, si cela est possible, Père, que ce calice passe loin de moi, non pas cependant comme je veux, mais comme toi tu veux. Ego volo, tu vis. Ecce quomodo in Christo duo locantur et de diversis locantur. Regardez, voyez comment il y a deux choses qui parlent dans le Christ et qui parlent de choses différentes. Loquitur, alors qui parle? Sensualitas, la sensualité parle. Ratio loquitur, la raison parle. Loquitur sensualitas ex nostra infirmitate, loquitur ratio ex divina firmitate. Vous voyez comment on écrivait et de ce fait aussi, vous commencez peut-être à percevoir comment on mémorisait. Enfin, il y a ce color rhythmicus, il y a cette cadence qui fait que c'est plus facile à retenir. La sensualité parle du haut, si je puis dire, de notre infirmité. La raison parle en vertu de la fermeté divine. Loquitur sensualitas ex humano affectu. La sensualité parle de par l'affect humain, la passion humaine. Loquitur ratio ex divino effectu. La raison parle de par en vertu d'une causalité, d'un effet en nous divin. Hoc est perpetuum in mente humana duellum. Cela, c'est dans l'esprit de l'homme, dans l'esprit humain, un duel permanent, perpétuel, perpetuum duellum. Quia et si ratio aliquando sensualitem refrenet, tamen sensualitas semper re murmurat. En effet, même si la raison parfois arrive à réfréner, à mettre le frein à la sensualité, tamen sensualitas semper re murmurat. Et bien, malgré ça, néanmoins, toujours la sensualité murmure. La murmure d'insatisfaction. C'est comme, elle est en effet comme la roue d'une charrette qui, certes, accomplit quelque chose de bien utile, elle permet de charrier le foin, mais néanmoins, toujours, pendant qu'elle fait cela, eh bien, elle couine, elle grince, n'est-ce pas ? Elle murmure, rémurmurate. Elle proteste d'une certaine façon. Alors, il y a un duel permanent dans l'âme humaine avec cette belle image de la roue de la charrette qui grince mais qui porte le foin. Ce duel, on le retrouve dans le Christ. Le duel, le duo, la dualité. Duel, c'est aussi une expression grammaticale, autant qu'une expression d'escrime agonistique. La personne est duelle, D-U-E-2-L-E, car elle est un duel, D-U-E-L. Elle est duelle car elle est duelle. Elle est en guerre, elle est en polémique. Elle est guerre, bellum et duellum sont d'ailleurs apparentés en latin. Le duel entre voulants, qui sont aussi des agents, eh bien, cette hypothèse nous renvoie à ce que j'appelais l'année dernière la théorie des deux agents et au problème posé jusque dans la philosophie classique. Peut-on admettre que des facultés, ici appelées sensualité et raison, soient en nous comme autant d'agents au lieu que nous soyons seuls, nous, seuls, agents à agir par leur entremise, en se servant d'elles comme de deux instruments. Est-ce que les facultés agissent librement en nous, s'affrontent en nous, sans nous, malgré nous, avec nous comme spectateurs, ou bien est-ce nous qui agissons, et sommes par conséquent, le cas échéant, divisés avec nous-mêmes, en utilisant, en nous servant d'eux, en agissant à travers ces facultés? Eh bien, c'est un problème tout à fait moderne, puisque ça n'est rien de moins qu'un des grands problèmes, avec comme solution une des grandes thèses de John Locke, hein, rejetant l'hypothèse de deux agents en l'homme, une théorie donc que j'ai appelée théorie des deux agents, qu'il rejette énergiquement. Et on avait vu cela l'an dernier, donc vous pouvez vous y reporter. Vous voyez que les problèmes viennent de loin. Ce que dit Locke, eh bien, d'une certaine façon, Alain de Lille, qui n'était évidemment pas très loin de l'Angleterre, c'est peut-être pour ça, mais enfin, y était déjà confronté. Voici une des règles théologiques qu'on appelle règle ou maxime du droit céleste, qui figure dans cet ouvrage d'Alain de Lille, qui présente un intérêt particulier pour l'histoire de la littérature philosophique parce que c'est un ouvrage constitué de propositions appelées règles ou maximes qui, chacune, comporte une sorte de démonstration, argumentation, illustration, ce qui fait que l'ouvrage est parfois présenté comme introduisant en philosophie une méthode, avec beaucoup de guillemets, dite axiomatique. Il faudra revenir là-dessus, mais bon, je n'ai pas le temps. En tout cas, dans ces règles du droit céleste, il y a la règle 97. De même que la chair est dite obéir à la raison quand elle n'agit pas directement contre elle, de même, la raison est dite consentir à la chair quand elle ne réprime pas la chair. Voilà la règle, et ça, c'est à graver au-dessus d'une immense cheminée, puisque s'il y en a 97 et il y en a d'autres règles, ça ferait beaucoup de règles à graver, on pourrait mettre ça sur les murs, je ne sais pas. En tout cas, c'est à mémoriser, parce que continuum est duellum inter carnem et rationem. Continuel, permanent, est le duel entre la chair et la raison. Aliud enim vult caro, aliud ratio. En effet, la chair veut une chose, la raison autre chose. En effet, bien que la raison réfrène la carnalitas, le penchant de la chair, afin que, certaines fois, elle ne commette pas quelque chose, des choses illicites. Cependant, jamais cette carnalitas est à ce point en état de sédation, n'est-ce pas, qu'elle cesse de murmurer, de protester, au moins dans les mouvements primitifs, c'est-à-dire les mouvements élémentaires, ceux qu'on a appelés les mouvements de la chair, n'est-ce pas, irrépressibles, ceux qui ne peuvent pas ne pas se produire. Pensez aux religieux enchaînés sur un lit au milieu de femmes lascives, selon Abélard. Et ideo obedire dicitur, la chair est dite donc obéir, quand elle n'agit pas, elle n'opère pas, elle n'œuvre pas directement contre la raison. Elle ne se calme jamais totalement, cette chair. Elle est toujours en train de murmurer. Alors, ça n'a aucun rapport avec ce que André Breton disait quand il disait « Fiez-vous au caractère inépuisable du murmure », n'est-ce pas ? Il ne parlait pas de la chair, mais de l'inconscient. Non. Et il s'agissait de poétiser. Bon, similitaire, donc, ratio dicitur consentire carni, de même, semblablement, la raison est dite consentir à la chair, non pas parce qu'elle y consent vraiment, puisque, clairement, toujours, elle réprouve les œuvres de la chair, mais parce que, certaines fois, alors qu'elle pourrait la réfréner, cette chair, non refrenat, elle ne la refrène pas. Ainsi qu'un roi, et dire, au fond, consentir aux vols qui ont lieu dans son royaume, hein, non pas parce qu'il y consent vraiment, hein, mais parce qu'il ne les empêche pas, si je puis dire, d'agir, les voleurs, alors qu'ils pourraient le faire, n'est-ce pas ? C'est le péché d'omission. Donc l'une murmure et n'agit pas directement, l'autre consent quand elle ne réfrène pas. Bon, voilà la guerre entre la chair et l'esprit, guerre dont, c'est pour ça que je dis que c'est peut-être aussi grave qu'un conflit de volonté, hein, guerre qui est plus que civile, dit Alain Delisle, entendons qui est pire qu'une guerre civile, comme il l'explique dans le chapitre sur la patientia, la patience, dans le De Arte Predicatoria, chapitre 15, De Patientia, qui distingue trois niveaux de guerre, trois niveaux de belligérance, la guerre extérieure ou étrangère, la guerre entre l'homme et le diable, n'est-ce pas, qui est la guerre étrangère, hein, n'est-ce pas, où l'ennemi est un autre, vraiment, hein, tout autre. Il y a la guerre civile, qui est la guerre entre un homme, entre l'homme et son prochain. Et puis il y a la guerre plus que civile, qui est la guerre entre la chair et l'esprit. Bon, le combat de la raison et de la sensualité, c'est au niveau anthropologique, hein, l'image du combat au niveau christologique entre le désir humain et la volonté divine dans le Christ, si l'on suit Sergius. Bon. Vous vous rappelez cela peut-être, il y a un autre modèle que la confrontation paulinienne entre la chair et l'esprit au Moyen-Âge. Un autre modèle que ce combat que l'on pourrait présenter comme faisant rage entre ce qui de moi n'est pas moi, hein, et moi, entre le corps, mon corps, instrument ou simple habit, simple vêtement, le corps comme vêtement de l'âme, hein, et ce qui est moi, à savoir l'âme précisément, combat que l'on pourrait, dans une autre terminologie, présentée comme faisant rage entre ce qui est mien et ce qui est moi, hein, pour parler comme Platon, Plotin et la tradition de l'Alcibiade, dont, je vous le rappelle, Michel Foucault a fait un célèbre commentaire dans son cours sur le sujet, l'herméneutique du sujet. Bien, il y a un autre modèle que le modèle paulinien stricto sensu, hein, si j'ose dire. Il y a le modèle augustinien, celui que nous avons tenté de suivre l'année dernière, sur les pas d'Augustin, bien sûr, mais aussi un peu de Hannah Arendt, hein, qui fait de l'affrontement entre le vouloir et le nouloir, entre vouloir et vouloir que ne pas, hein, un véritable conflit interne à la volonté humaine. Pas de vouloir sans nouloir. Au même moment où je veux, je ne, disions-nous l'année dernière. Or, ce conflit, c'est aussi, après tout, d'abord et avant tout, celui que pose le problème de Gethsémani si on ne veut pas l'esquiver misérablement en se repliant sur une position où s'affronterait un niveau éthique, la volonté, et un niveau infra-éthique, le désir, les mouvements primitifs de la chair. Le problème, le vrai problème du psephos, après tout, se pose pour un occidental, pour un latin, peut se poser en termes, et devrait, d'une certaine façon, latinité oblige, se poser en termes augustiniens. Alors, nous ne sommes pas, cela dit, chez Augustin. Nous sommes à Byzance avec ce psephos. Et nous sommes dans les années 600. Sergius pose décidément le problème au niveau du conflit entre volonté et le résout au niveau d'un conflit entre désir et volonté. Il le pose à un niveau moral et il le résout à un niveau que d'aucuns disent infra-moral, en tout cas en ayant changé les protagonistes de l'agonie, les protagonistes du combat, non plus moi contre moi, mais la chair contre l'esprit, une chair qui n'est pas libre contre un esprit qui est libre. Ce n'est pas tout ce qu'il fait, Sergius, en réalité, comme on le verra. Mais pour l'instant, je m'en tiens à cette argumentation. Je propose que nous fassions une pause et après 5 minutes de répit, nous reprendrons nos exercices de patience et d'impatience, non pas dans l'azur, mais sous le bois dur.